Alors, je voudrais avant tout vous poser une question que vous trouverez peut-être un peu directe, mais c'est la suivante. Quelle est la nature de votre relation avec Dieu ? Quelle est la nature de votre relation avec Dieu ? Je sais que pour beaucoup de Français, Dieu, c'est un peu comme le sexe et l'argent, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas ouvertement, ça ne se fait pas. Mais ne pas en parler ou ne pas même y penser, ça ne fait pas pour autant disparaître l'importance du sujet, n'est-ce pas ? D'ailleurs, l'actualité récente nous rappelle la fragilité de la vie. Parmi les victimes de l'attentat de cette nuit à Londres, je doute qu'il y en ait eu une de ces victimes qui se disait en début de soirée qu'elle était vraisemblablement en train de vivre les derniers instants de son existence sur la Terre. Et qu'est-ce qui reste après ? Sinon, la question de notre relation avec Dieu. Lorsque nos richesses et notre sécurité matérielle nous sont enlevées, lorsque nous perdons la santé et lorsque nous perdons en fin de compte la vie, qu'est-ce qui reste après tout ça ? Sinon, la question essentielle de savoir si oui ou non, pour sûr, Dieu nous aime et si nous faisons l'objet de son amour et de sa faveur pour l'éternité. Est-ce qu'il va nous accueillir auprès de lui pour l'éternité ? Quelle est donc votre relation avec Dieu aujourd'hui ? Et d'ailleurs, sur quoi repose-t-elle votre relation avec Dieu ? Beaucoup de gens supposent que Dieu, s'il existe, il doit être gentil, puisqu'il est Dieu. Et puisqu'il est gentil, on n'a pas trop de soucis à se faire. La plupart d'entre nous ici, j'imagine que nous n'avons tué personne. Nous n'avons même pas cambriolé une banque de toute notre vie. Puisque nous sommes plutôt intelligents, plutôt éduqués, plutôt polis, puisque nous savons faire preuve de gentillesse envers nos proches, nos amis, puisque nous sommes plutôt performants finalement en tant qu'êtres humains, on est plutôt confiant alors en nos mérites. Si Dieu existe, on n'a pas trop de soucis à se faire quand même. Il doit être gentil. Or moi je voudrais attirer votre attention sur le texte, un texte qui n'est pas long, quelques versets qu'on va lire dans un instant. Et dans ce passage, vous allez voir, c'est un texte tiré d'un des évangiles. Les évangiles dans la Bible sont des parties du Nouveau Testament qui racontent l'histoire de la vie et de l'œuvre de Jésus. C'est un extrait d'un de ces évangiles, l'évangile selon Marc. Et dans ce passage, vous allez voir qu'il y a des gens qui apportent des petits-enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Alors jusqu'ici, tout va bien. Mais les disciples de Jésus vont provoquer un petit incident. Et cet incident sera l'occasion pour Jésus de parler justement des conditions à remplir pour, dit-il, entrer dans le royaume de Dieu. Alors, cette expression, entrer dans le royaume de Dieu, ça peut nous paraître un peu bizarre aujourd'hui. Les gens à l'époque de Jésus, ils savaient très bien de quoi ils parlaient. Mais pour faire simple, mais vraiment très simple, en gros, entrer dans le royaume de Dieu, ça veut tout simplement dire aller au paradis, être accueilli par Dieu, auprès de lui, pour l'éternité. Et ce qu'on va voir à travers ce passage, c'est que pour aller au paradis, ou pour entrer dans le royaume de Dieu, ou tout simplement pour être certain de faire l'objet de l'amour de Dieu et de sa faveur éternelle, il ne faut surtout pas s'appuyer sur ses propres mérites, ou sur ses propres atouts, ou sur ses propres performances. Il faut au contraire, écoutez bien, renoncer à soi-même et compter sur Dieu. Renoncer à soi-même et compter sur Dieu. Et on va voir ce que ça veut dire plus précisément, après qu'on aura fait la lecture, et on verra quelle est la pertinence de cette réalité pour le baptême de Madèle aujourd'hui, mais aussi, peut-être surtout, la pertinence de cette réalité pour nous tous assemblés cet après-midi. Alors je vais lire ces quelques versets qui sont tirés de l'évangile, donc selon Marc, je le disais, c'est le deuxième des quatre évangiles, le deuxième livre du Nouveau Testament, donc. Et c'est donc quelques versets tirés de cette biographie de Jésus, si vous voulez. L'évangile selon Marc, chapitre 10, versets 13 à 16. Des gens amenèrent à Jésus des petits-enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit: « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils, c'est-à-dire pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis Jésus les embrassa et les bénit, les enfants donc, en leur imposant les mains. Avant d'aller plus loin, prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce texte tiré de la Bible, nous te remercions pour la Bible qui est ta parole. Par elle, tu veux nous instruire et nous te prions maintenant de bien vouloir bénir ces instants de réflexion, que par ton esprit, tu nous rendes attentifs à ce que tu veux nous dire et que par ce même esprit, agissant puissamment, tu appliques la vérité de ta parole à notre vie. Amen. Alors, il se passe deux choses dans ce texte. D'abord, il y a une indignation et ensuite, il y a une invitation. L'indignation dans ce texte, c'est celle, si vous avez suivi, c'est celle de Jésus. Mais l'indignation de Jésus dans ce texte répond en fait à une autre indignation, qui est celle des disciples de Jésus. Vous avez vu ce qui se passe dans le texte, il y a des gens qui apportent des bébés à Jésus pour que Jésus bénisse ces bébés. Mais les disciples de Jésus s'indignent. Mais qu'est-ce qu'ils ont cela à apporter des petits-enfants à Jésus? Ces petits-enfants, ces bébés, ils n'ont aucune conscience de qui est Jésus, c'est pas leur place ici. Ils n'ont aucune connaissance de la religion, ils n'ont pas encore eu l'occasion de faire leurs preuves, d'apprendre les commandements de Dieu, de faire leur catéchisme. En fait, ces enfants-là, ces petits-enfants, ils s'en fichent même d'être là en réalité. Tout ce qui les intéresse dans la vie, à leur âge en tout cas, c'est pleurer, manger, dormir, remplir la couche et recommencer. Alors arrêtez d'importuner notre maître, arrêtez d'importuner Jésus avec ses petits-enfants. Mais Jésus, nous dit le texte ici, il est lui-même indigné, mais il n'est pas indigné par le fait qu'il y ait des gens qui lui apportent des petits-enfants, il est indigné par l'attitude de ses propres disciples. Pourquoi est-ce qu'il est indigné? Parce que cette attitude-là, des disciples de Jésus ici, qui, entre parenthèses, sont souvent présentés dans les évangiles comme des contre-exemples hein, de ce que ça veut dire d'être un vrai disciple de Jésus. Ici, c'est une de ces situations où ils sont présentés comme des contre-exemples, ils se font reprendre, corriger par Jésus. Pourquoi donc Jésus, il est indigné par leur attitude, parce que cette attitude sous-entend que pour s'approcher de Dieu, il faut d'abord franchir certains paliers. Clairement, un bébé n'a encore rien prouvé en termes de foi, en termes de fidélité à Dieu, ou fidélité à sa religion, en termes de performance religieuse, en termes de performance morale. Clairement, un bébé n'a rien fait de tout ça. Il faut d'abord qu'il franchisse certains paliers avant qu'il puisse s'approcher du Maître, et en fait de Dieu. Mais Jésus est indigné qu'on puisse laisser entendre que Dieu accueille seulement les gens qui se montrent à la hauteur. Le terme indigné dans le texte, ici au verset 14, si vous avez fait attention, c'est un terme très fort en fait, qui veut dire être très mécontent. Très mécontent. En réalité, ici, c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament où ce terme concerne Jésus, où ce terme est appliqué à Jésus. Et pourquoi Jésus serait-il tellement mécontent ? Bien parce que ce que les disciples sous-entendent par leur attitude est en fait en contradiction directe avec une réalité fondamentale qui est au cœur même de l'enseignement de Jésus, et j'ai envie de dire au cœur même de toute la Bible. Cette réalité, c'est la suivante. C'est que personne ne peut prétendre avoir suffisamment fait ses preuves pour être accueilli par Dieu dans son paradis. Et en empêchant les gens de présenter leurs petits-enfants à Jésus, les disciples sous-entendent que c'est possible de faire ses preuves pour être accueillis par Dieu dans son paradis et que les enfants ne les ont pas encore faites, leurs preuves. Et donc, ils ne sont pas dignes de s'approcher. Vous comprenez? Les disciples sous-entendent qu'on doit d'abord faire ses preuves avant d'être accueillis par Dieu dans son royaume ou dans son paradis. Vous voyez la contradiction? La contradiction. Alors, de nos jours, c'est vrai que on a tendance à réfléchir pas mal comme les disciples de Jésus dans ce texte. Finalement, on n'a pas beaucoup changé en 2000 ans à peu près. Il faut obtenir son bac pour pouvoir aller à la fac. Il faut obtenir telle ou telle mention d'ailleurs au bac pour pouvoir intégrer telle ou telle grande école. Il faut avoir une certaine expérience professionnelle avant de pouvoir postuler à tel ou tel poste dans l'entreprise. Il faut avoir un casier judiciaire vierge si on veut devenir ministre ou député sous la présidence d'Emmanuel Macron. Il faut porter une cravate pour manger dans ce grand restaurant étoilé du guide Michelin. D'ailleurs, parfois, à l'entrée de certains établissements, il y a un panneau où c'est marqué « tenue correcte exigée ». Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, on m'a refusé à moi l'accès à un restaurant qui se trouvait près d'une plage parce que je me suis présenté à l'entrée du restaurant en tongs. Il y avait d'ailleurs à côté de la porte un panneau, un assez grand panneau, et sur ce panneau, il y avait des photos de différentes tenues. Dans une colonne, les tenues acceptables pour entrer dans ce restaurant, dans l'autre colonne, les tenues inacceptables. Et effectivement, il y avait une photo de quelqu'un en tongs avec une grosse croix rouge qui barrait la photo, vous comprenez. Alors je veux que vous imaginiez, si vous vous présentiez à la porte du royaume de Dieu, et qu'il soit écrit sur un panneau, tenue correcte, exigée. Sérieusement, quelle tenue serait appropriée pour se présenter à Dieu? Je ne parle pas de se présenter au pape François, ou à Vladimir Poutine, ou à la reine d'Angleterre, et déjà, certains d'entre nous, on aurait du mal à trouver quelque chose d'approprié dans notre garde-robe. Mais je parle de se présenter à Dieu, le souverain, créateur tout-puissant de tout ce qui existe, et non seulement le créateur de tout ce qui existe, mais en plus le souverain juge, le souverain maître, le souverain régisseur de tout ce qui existe, de tout ce qui nous entoure, toutes les choses que vous voyez, tous les atomes que vous voyez, jusqu'aux galaxies les plus lointaines qu'on peut à peine distinguer, jusqu'à celles qu'on ne peut même pas voir. Quelle tenue serait appropriée pour se présenter devant lui? Et qui aurait cette tenue dans sa garde-robe? Les disciples de Jésus, dans ce texte, ils sous-entendent qu'eux, ils l'ont, cette tenue, dans leur garde-robe. Peut-être parce qu'ils se disent, nous, depuis qu'on connaît Jésus, on a fidèlement pratiqué notre religion. Peut-être parce qu'ils se disent qu'ils sont peut-être plutôt intelligents. Enfin, en tout cas, ils savent des choses que les autres, ils ne savent pas. Peut-être parce qu'ils se disent qu'ils n'ont tué personne et qu'ils n'ont jamais cambriolé une banque ou une bijouterie. Peut-être parce qu'ils se disent, nous, on a un certain âge. Bon, ils ont probablement la vingtaine à peine, mais ils se disent, on a quand même de l'expérience dans la vie. En tout cas, plus que ces petits-enfants qui n'arrivent même pas à marcher, alors on doit les porter pour les présenter à Jésus. Non mais, ils se disent qu'eux, ils sont dignes. Mais Jésus est très mécontent devant cette attitude parce qu'il ne veut surtout pas laisser entendre qu'il est possible aux êtres humains de se montrer dignes d'être accueillis dans le royaume de Dieu. Tout l'enseignement de Jésus, et d'ailleurs toute la Bible, nous fait comprendre que nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, nous montrer à la hauteur des exigences de Dieu. C'est tout simplement pas possible. Pourquoi? Parce que la Bible nous explique qu'il y a un gouffre, en fait, qui nous sépare de Dieu. Et ce gouffre est dû à un problème qu'on ne peut pas régler facilement, parce que c'est un problème qui est enraciné dans notre cœur à tous. C'est le problème, justement, de notre autosuffisance, ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire la disposition de notre cœur qui fait que fondamentalement, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons pouvoir nous débrouiller tout seuls. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas, et ça, il faut faire le constat, et vous ferez le même constat que moi si vous êtes suffisamment honnête sur ce qui se passe dans votre cœur, nous ne sommes pas naturellement disposés à faire confiance à Dieu. Et donc, même si nous devions consacrer toute notre vie à l'étude de la religion et à la pratique des bonnes œuvres, en se disant que sûrement, quand on se présentera à la porte du paradis, sûrement notre tenue sera alors considérée comme acceptable, il y a un prophète de l'Ancien Testament qui nous rappelle ceci, il nous dit « Tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. » Donc, même tous nos actes de justice, aux yeux de Dieu, finalement, ne sont qu'un vêtement pollué. C'est pas une tenue acceptable. Jésus est donc indigné ici qu'on puisse laisser penser que le gouffre qui nous sépare de Dieu n'est pas si profond qu'on ne peut pas le traverser tout seul. Alors jusqu'ici, c'est peut-être un peu déprimant. C'est pas tout à fait une bonne nouvelle. Mais l'indignation de Jésus dans ce texte a aussi une portée positive. Il y a un versant positif à cette indignation, et c'est le deuxième point de ce message. D'un côté, donc, Jésus rappelle à son auditoire qu'on n'est pas accueilli par Dieu dans son paradis sur la base de nos performances ou de nos mérites, mais d'un autre côté, dans ce même passage, il va nous dire comment on entre dans le royaume de Dieu. Et c'est là l'invitation. On a vu l'indignation, maintenant c'est l'invitation de ce passage. Jésus dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Il dit au verset 15, on entre dans le royaume de Dieu en recevant le royaume de Dieu comme un petit enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, ça veut dire l'inverse de ce que les disciples sous-entendaient. On n'entre pas dans le royaume de Dieu en s'appuyant sur ses propres performances, mais au contraire, en ne s'appuyant pas sur nos propres performances. Et pourquoi est-ce que Jésus peut affirmer une chose pareille ? Parce que Jésus, il est très bien placé pour savoir exactement ce que Dieu a prévu pour que les êtres humains soient délivrés de ce fameux problème qui est enraciné dans leur cœur. Ce problème que la Bible appelle le péché, ce problème qui tient les hommes éloignés de Dieu. Jésus, il sait ce que Dieu a prévu pour régler ce problème. Jésus, au moment où il parle ici dans ce texte, au moment où ses disciples sont présents, au moment où il y a ces gens qui apportent des bébés pour que Jésus les touche, il sait pertinemment, Jésus, que quelques temps plus tard, pas très longtemps plus tard en fait, il sera abandonné par ses proches, même par ses plus proches disciples. Il va souffrir terriblement, il va être battu, il va être humilié, il va être condamné, et enfin il va être crucifié, c'est-à-dire cloué sur une croix romaine, qui est la forme de l'exécution, de la peine capitale à l'époque. Jésus sait que ça va arriver, et que ça va arriver bientôt. Et la raison pour laquelle Jésus va endurer ces choses, c'est justement, écoutez bien, pour détourner sur lui-même les conséquences de notre autosuffisance. Vous connaissez peut-être le récit de la crucifixion de Jésus, vous avez peut-être déjà assisté à des cérémonies, à des messes pendant la semaine sainte, vous savez, la semaine qui précède Pâques. Vous avez peut-être assisté à des chemins de croix, etc. Et vous savez peut-être qu'à un moment donné, lorsque Jésus était en train d'agoniser sur la croix, d'ailleurs au plus fort de son agonie, Jésus a poussé une exclamation et il s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en fait, à ce moment-là, on voit que Jésus, il fait l'expérience de cette séparation d'avec Dieu que nous, en fait, qui étions coupables, nous méritions. En fait, je dirais même, cette séparation, non seulement que nous méritons, mais en fait, que nous recherchons par nature, parce que nous avons envie de nous débrouiller tout seuls, nous n'avons pas envie que Dieu s'occupe de nous, nous n'avons pas envie qu'il se mêle de notre vie. La conséquence ultime, c'est d'être séparé de Dieu. Donc, fondamentalement, par nature, c'est ce que nous recherchons. C'est la conséquence logique de notre autosuffisance. Et Jésus subit cette conséquence sur la croix. Il détourne sur lui-même, en fait, les conséquences de notre péché. Pourquoi ? Pour que nous puissions, en échange, être réconciliés avec Dieu et faire l'objet de son amour et de sa faveur éternelle. Vous voyez, Jésus détourne sur lui-même les conséquences de nos fautes pour nous en délivrer, et nous échange ça contre le fait d'être, au contraire, réconcilié avec Dieu, et de faire l'objet de sa faveur, et de n'être jamais abandonné par Dieu, contrairement à Jésus sur la croix. Et donc la moralité de l'histoire, c'est que nous ne pouvons pas par nous-mêmes faire ce qu'il faut pour être accueillis par Dieu dans son paradis, mais Jésus, qui en était capable, l'a fait pour nous. Et comment est-ce qu'on reçoit ce cadeau incroyable que Dieu nous tend, que Dieu nous présente ? Eh bien, Jésus le dit ici. En le recevant, dit-il, comme un petit enfant. Alors, quand Jésus dit comme un petit enfant, il ne veut pas dire en poussant un caprice, en tapant des pieds, en pleurant, en hurlant, en retenant sa respiration jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut, c'est-à-dire entrer dans le paradis. Faire un scandale jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Non, c'est pas ça que Jésus veut dire quand il dit comme un petit enfant. En tout cas, pas ici, en tout cas, c'est pas ce qu'il veut dire. Quand il dit comme un petit enfant, Jésus fait référence plutôt à une attitude de dépendance totale. Quand on y pense, c'est très frappant, hein, la façon dont un bébé n'essaye pas de mériter sa nourriture. Rien ne paraît plus normal à un bébé que de voir une cuillère remplie de purée se diriger vers sa bouche 3 fois par jour. Rien ne lui semble plus normal qu'on lui change sa couche, qu'on lui donne le bain, hein, que des bras solides, costauds, le soulèvent pour le mettre dans son siège ou pour le mettre dans la poussette ou dans la voiture. Le petit enfant ne s'appuie pas sur ses propres performances pour obtenir tous ses bienfaits. Ils lui sont offerts, ses bienfaits. Et tout ce qu'il a à faire, le bébé, c'est les recevoir. Dans la confiance dans la docilité, quelque part, dans la simplicité. Le bébé, il est dépendant, et quelque part, il en a conscience d'être dépendant, et ça ne le dérange pas du tout. Il l'accepte. Il ne peut rien contribuer à sa propre santé ou à sa propre sécurité. Et en fait, de la même façon, Jésus ici, il veut que nous, avec ses disciples aussi dans le texte, nous prenions conscience que nous ne pouvons rien contribuer par nous-mêmes à notre place dans le paradis de Dieu. Comme l'a dit un jour un grand théologien, tu ne peux rien contribuer à ton salut, sinon le péché qui l'a rendu nécessaire, ton salut. C'est Dieu qui s'est occupé de notre salut à notre place. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est occupé de nous ouvrir la porte de son royaume. Et il nous offre ce royaume, cette place dans son paradis. Et nous pouvons la recevoir, cette place, tout simplement par la foi. C'est-à-dire en ne nous appuyant pas sur nos propres performances, mais en nous appuyant à la place et totalement sur Dieu. En raison de ce qu'il nous promet dans sa parole, de ce qu'il nous promet par Jésus-Christ, en raison non seulement de ce qu'il nous promet, mais en plus de ce qu'il a accompli par Jésus-Christ, à la croix, là où Jésus est mort, et là où 3 jours plus tard, en tout cas le 3e jour après, il est ressuscité en vainqueur. Alors il est possible que jusqu'à aujourd'hui, vous pensiez que Dieu, s'il existait, vous récompenserait pour votre performance dans la vie. Une performance qui est, sans doute, j'en conviens, au-dessus de la moyenne. Le moment est venu aujourd'hui, de reconnaître que ni vous, ni moi, nous n'avons dans notre garde-robe une tenue suffisamment correcte pour entrer dans le royaume de Dieu. Le moment est venu de renoncer à nous appuyer sur nos propres mérites, ou sur nos propres atouts, ou sur nos propres performances. Le moment est venu, à la place, de tout simplement demander pardon à Dieu, d'avoir cherché à nous débrouiller tout seul dans la vie. Le moment est venu de revenir à Dieu, comme un petit enfant auprès de ce Père bienveillant, qui n'attend qu'une chose en fait, c'est que nous lui fassions confiance et que nous le laissions conduire notre vie jusque dans l'éternité. C'est pourquoi je vous posais cette question un peu directe tout à l'heure. Quelle est la nature de votre relation avec Dieu? Personne ne peut répondre à cette question à votre place. Vous pouvez vous poser cette question dans le secret de votre cœur cet après-midi. Et sur quoi repose-t-elle votre relation avec Dieu? C'est vrai que nous sommes plutôt performants en tant qu'êtres humains. Et donc, c'est vrai que nous pensons avoir quelques mérites à faire valoir. On n'est pas des monstres, après tout. Et Dieu, s'il existe, il est forcément gentil, alors on a toutes nos chances, n'est-ce pas, d'entrer dans le paradis. Mais on a vu 2 choses dans ce texte. D'une part, l'indignation de Jésus, qui ne veut surtout pas laisser penser que Dieu accueille les gens qui se montrent à la hauteur, puisqu'il est impossible d'être à la hauteur des exigences de Dieu, quel que soit notre âge, quelle que soit notre maturité, notre intelligence, notre expérience, notre zèle religieux. Mais d'autre part, on a aussi vu l'invitation de Jésus, qui nous rappelle que ce paradis que nous ne sommes pas capables de mériter, eh bien Jésus l'a mérité pour nous, à notre place. Et il nous l'offre ce paradis à condition que nous lui fassions confiance au point de lui remettre les rênes de notre vie. Comme je le disais en introduction, toute la leçon de ce passage finalement, c'est que pour être certain de faire l'objet de l'amour de Dieu et de sa faveur éternelle, il faut renoncer à soi-même et compter sur Dieu. À la fin de ce passage, Jésus y met les points sur les i, en quelque sorte, en embrassant même ses petits-enfants qui n'ont rien à faire valoir par eux-mêmes, n'est-ce pas? En les embrassant, en les bénissant, et le texte dit même en leur imposant les mains, ce qui est un geste extrêmement significatif à l'époque de la part d'un rabbin juif comme Jésus, extrêmement significatif pour ce qui concerne l'attention particulière que Dieu leur porte à ses petits-enfants. Et dans quelques instants, c'est Madèle qui va recevoir le signe de cette attention particulière de Dieu par le baptême. cette petite Madèle va nous rappeler que le royaume de Dieu n'est pas réservé aux gens qui arrivent à faire leur preuve. Madèle reçoit aujourd'hui le signe par lequel Dieu dit « Tout a été accompli par Jésus ». Ni Madèle, ni ses parents ne sont capables de contribuer quoi que ce soit à leur salut. C'est moi, dit Dieu, qui ai ouvert la porte de mon royaume. C'est moi qui ai appelé Nico et Hélène, les parents de Madèle, et ils ont répondu par la foi. C'est moi, dit Dieu, qui ai donné la vie à Madèle et qui l'ai confiée à ses parents. Et c'est moi, dit Dieu, qui adresse à Madèle, en raison de son appartenance à un foyer chrétien et de sa présence dans l'Église, c'est moi, dit Dieu, qui lui adresse cet appel solennel à entrer à son tour dans mon royaume par la foi. Un appel qui lui sera répété et renouvelé toute son enfance par l'effet du témoignage de ses parents, par l'effet du témoignage de son parrain, de sa marraine, par l'effet du témoignage de ses frères et sœurs de l'Église. Cet appel à entrer dans le royaume de Dieu par la foi. La foi dont elle est déjà en quelque sorte le modèle, Madèle. Ah oui, j'ai cherché longtemps pour la faire maintenant. La foi dont elle est déjà en quelque sorte le modèle. Cette foi, cette confiance, cette dépendance qui sont celles d'un petit enfant. Prions. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, de nous rappeler à travers ce texte ce soir que nous n'avons pas à vivre sous la tyrannie de nos performances, de nos atouts, de notre valeur, de nos mérites pour te connaître, pour avoir ta faveur, pour entrer dans ton royaume. Tu as tout accompli par Jésus-Christ à notre place. Tu nous présentes maintenant cette place dans ton royaume. Tu nous la présentes gratuitement pour nous, bien qu'elle t'ait coûté cher à toi. Aide-nous à répondre à cette invitation par la foi. Inspire cette foi à tous ceux qui ne l'ont pas encore. Donne-leur cette foi par l'effet puissant de ton Saint-Esprit, dès aujourd'hui si c'est possible. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.